Un mauvais placement.
.52 dans les prochaines minutes, on va parler avec Marc-Antoine Reid, planificateur financier. Si vous avez des questions pour lui en tout temps, par texto 88-971-1021, 88-971-1021. Juste avant, comment ça se passe chez nous?
Ça allait pas assez mal. Faut ajouter une panne sur le pont de Québec, direction nord, en plein milieu du pont. La voie de droite qui est bloquée, fait que l'heure de pointe qui va encore s'étirer un petit peu.
Tu veux pas être ce gars-là?
Non.
Parce que toutes les gens qui passent à côté de toi...
Ils te regardent.
Ça fait une demi-heure, 45 minutes, une heure qu'ils sont derrière toi. Puis quand ils ont la chance de passer à côté de toi, ils ont l'impression que c'est toi qui es responsable du bris de ta machine. Puis ils t'envoient y promener.
Exactement. Sinon, Capital Ouest encore au rouge entre Henri Bourassa et Laurentienne. Henri IV Sud entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest, c'est encore au rouge aussi un petit peu. Tranquillement, pas vite, ça se dissipe. Il était temps, l'approche de 9h.
12 degrés sur Québec, c'est plein soleil. Ce sera ça toute la journée, maximum de 24 degrés. Ce soir, cette nuit, Max, tu vas voir les étoiles avec ton incroyable conjointe que tu es sur le point de marier. Ciel
laquelle?
Dégagé, minimum de 10, t'en as combien?
En ce moment, c'est pas pas bien.
Je t'aurais dû prendre la rousse, tout simplement. Mercredi, demain, ensoleillé maximum de 24.
J'ai jamais eu de rousse dans ma vie.
Non!
Étrangement, non.
Ah, j'ai-tu déjà eu une rousse dans ma vie?
Ben voyons, les gars.
Je pense que oui.
C'est rare, ça.
De pas avoir
une blonde rousse. Ben oui, vous avez pas connu le bonheur, les gars. Jeudi, alternance soleil-nuage avec un maximum de 24 degrés. Vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 18. Puis si je vais pour le week-end, en journée, plein soleil samedi-dimanche, maximum de 16 pour samedi, un maximum de 21. Et de la pluie seulement prévue pour dimanche soir. Donc, profitez de la semaine qui se dresse devant vous. Marc-Antoine Reid, athlète professionnel, planificateur financier pour l'équipe Marc-Antoine Reid, IG. Marc-Antoine Reid qui est en studio avec nous. Salut mon ami.
Hey, bonjour.
Merci d'être là. On va parler de planification financière tout au long de la saison, bien entendu, mais on va se trouver des petites thématiques. Là, actuellement, on est dans la rentrée scolaire. Puis j'imagine que toi, tu reçois des téléphones de tes clients. Mais moi, dès le départ, quand nos enfants sont nés, des gens qui nous avaient approchés pour dire « Hey Yann, tu voudrais-tu faire telle affaire pour envoyer tes enfants au cégep ou à l'université? » Puis j'avais embarqué dans ce type de fonds-là que je trouvais franchement intéressant. C'est un bon réflexe là, pour les jeunes de notre génération. Moi puis Jeff, je pense que les deux, on l'a fait. Mais j'ai encore des chums qui n'ont jamais embarqué là-dedans, alors que je considère que c'est une erreur financière de ne pas embarquer dans ces fonds-là.
Le régime enrichi d'épargne-études est effectivement quelque chose d'exceptionnel, là, si on veut, pour aider nos enfants à avoir un meilleur futur. On sait qu'on peut bien réussir sans ça, mais il y a un lien quand même direct entre la qualité de vie et le niveau d'éducation. Et ça permet de prévoir là, toutes les dépenses assurément reliées à ça. Mais je ne veux pas brûler mes punchs. Une des choses que j'aimerais que les gens retiennent de la chronique d'aujourd'hui, c'est qu'on est sensibilisé à ça. Souvent, ils sont bien organisés, certaines de ces compagnies-là. Là. Moi, je dis de façon très imagée, là, la conjointe est dilatée à 3 puis le téléphone sonne pour parler des études.
c'est drôle que tu parles de ça.
C'est tellement vrai, ça.
Parce que là, moi, je me suis dit, coudonc, ils ont-tu des espions à l'hôpital? Parce que mon enfant venait de venir au monde puis ils m'ont appelé.
J'ai déjà été directeur d'un bureau, du bureau ici à côté, puis c'est mon rôle, c'est d'aider les jeunes conseillers, puis j'essaie de voir comment ces compagnies-là mettaient la main sur les listes, là. Puis ma réponse, c'est, tu sais, tous les échantillons là, que les parents prennent, là, tu sais, puis on donne les noms, puis ils cochent des affaires, fait que
c'est la faute à leur mère.
Faut pas généraliser, peut-être des pères qui remplissent pour avoir les échantillons
de maternelle. Dans ma tête, j'étais persuadé que c'était quelqu'un à l'hôpital, genre une infirmière préposée aux bénéficiaires.
Je me suis posé cette question-là aussi, s'il y avait une fuite.
Les noms des nouveaux-nés.
Mais en tout cas, ils tombent au bon moment. Maintenant, une des choses, à la fin de la chronique, je vais vous donner des trucs. Puis une des choses à retenir, c'est que vous devriez faire, à mon avis, vos régimes enregistrés d'épargne études avec votre planificateur financier. Ça fait que tu as fait une bonne introduction, c'est la période des études.
Oui.
Nous, puis j'aime ça parce que c'est signe qu'on a fait un bon travail dans le passé. C'est une petite période de rush. Tu sais, chaque période, c'est des choses qui nous gardent particulièrement occupés. Présentement, bien, c'est les gens, les parents que leurs enfants ont des études postsecondaires qui commencent à retirer les sommes qu'ils ont accumulées d'une belle façon avec les régimes enregistrés d'épargne études. Puis je vous nomme quelques statistiques, là. Une étude de Statistique Canada qui a été faite récemment qui mentionnait que 69 % des parents avaient mis de l'argent de côté pour l'étude de leur enfant.
7 personnes sur 10, c'est excellent.
C'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. Dans ces gens-là, 85% avaient utilisé le régime enregistré d'épargne-études. Fait que là, on peut regarder le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. Bon, moi, dans la chronique d'aujourd'hui, j'aimerais définitivement parler aux 31% qui, peut-être qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à le faire, mais j'ai un petit truc pour eux. 31% qui n'ont pas mis d'argent pour les études postsecondaires des enfants, puis définitivement aux 15% que s'ils le font, ils n'utilisent pas les REA, ça c'est une erreur majeure. Puis on parle aussi aux futurs parents, là. Il y en a plusieurs, il y en a qui le savent, d'autres qui ne savent pas, qui vont le devenir un jour. Là.
Moi j'ai ce produit-là, je le trouve franchement intéressant quand on me l'avait présenté, puis j'avais embarqué. Mais si mes enfants vont pas dans des études postsecondaires, ils vont pas au cégep, je ne sais pas, moi j'en ai un qui veut être policier, fait que lui nécessairement il va devoir passer par le cégep, puis l'autre aimerait bien aller dans l'armée. Fait que là, j'ai dit, il n'est pas question que tu ailles dans l'armée sans ton secondaire 5, mais si lui, il s'en va dans l'armée après son secondaire 5, qu'est-ce qui arrive avec mon régime?
On va répondre de façon générale. Là, ça prend juste un diplôme, un programme d'études postsecondaires ou même un diplôme d'études professionnelles pour pouvoir retirer les sommes. Fait que je vais donner un exemple. J'ai déjà été directeur de succursale pour la Banque TD à Drummondville. Et là-bas, il y avait une école réputée pour la massothérapie. Là, puis j'ai retiré plein de régimes enregistrés d'épargne-études pour aller faire un programme de massothérapie. Il n'y a pas de sous-métier, mais je veux dire, c'est pas un programme très sophistiqué non plus. Là, ouais. Puis j'ai retiré des régimes enregistrés d'épargne-études pour ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a toutes sortes de règles qui permettent de transférer un régime enregistré d'épargne-études à un autre enfant. Ça fait que si, mettons, un enfant... J'appelle ça être un solide décrocheur, puis il fait aucun programme par la suite. Il arrête en secondaire 3, puis il n'y a pas de métier, pas de programme. Ouais. Je pourrais, dans certaines conditions, je peux transférer toutes les sommes à l'autre enfant.
Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que si tu peux prendre ça, c'est un bon produit, mais si les jeunes ils vont pas dans des études postsecondaires, ils n'ont pas de diplôme en massothérapie par la suite, tout ça, les gens vont récupérer leur propre argent quand même.
Exact, c'est ça. Moi, je dirais, là, c'est mon point de départ, puis c'est un excellent commentaire là, qui change la donne. Je pose aux clients de dire, est-ce que tu veux aider tes enfants pour leur étude? Okay? Pas de jugement, mais la plupart du temps, la réponse est oui quand le client est devant moi.
Ça paraît mal de dire non devant lui-même.
Puis, c'est ça. Sinon, je regarde la mère et je dis au père, vous êtes sûr? Non, mais faire sa part... donc, c'est ça, ça. Quand la réponse est oui... Bien, là, je leur dis, bien, tout l'argent, je leur explique comment ça fonctionne, je vais vous l'expliquer à l'instant, les grandes lignes, mais je leur dis, tout l'argent qu'ils vont mettre dedans, je vais vous le redonner à vous. Fait que ça, c'est un élément déclencheur. C'est un élément déclencheur aussi avec d'autres personnes intéressées. J'ai beaucoup de grands-parents, puis si c'est votre cas, je vous encourage à y songer, si ça avait un peu de sous, qui prennent des régimes enregistrés d'épargne-études pour leurs petits-enfants. Pas besoin d'être le père, là. Tu peux être le parrain ou, mettons, je te donne un exemple purement fictif, tu peux être attaché à l'enfant d'une de tes ex puis avoir les moyens puis de dire je veux l'aider, je veux continuer d'avoir un lien puis l'aider à un meilleur futur pour un régime enregistré d'épargne-études pour cette personne-là.
Est-ce que les enfants peuvent s'en ouvrir un eux-mêmes? C'est une question qu'on a par texto. Oui. Fille de 14 ans commence à travailler, oui. Les parents n'ont pas les moyens.
Oui. Ça m'est jamais arrivé, moi, là, de le faire personnellement, parce que j'ai pas de gens de 14 ans qui m'appellent deux autres
mêmes.
Oui.
Mais ils pourraient le faire eux-mêmes.
Ils pourraient le faire. Dans certaines conditions, c'est intéressant de le faire aussi. Je vais vous en parler à la fin. Puis c'est important d'écouter parce que les gens pour qui ça s'applique, et les conseillers financiers, malheureusement, ne courent pas après eux. Là. Ceux qui ont une situation plus difficile, là, il y a de l'argent qui peut être déposé gratuitement dans le régime enregistré d'épargne-études. C'est mon dernier point là, de la chronique aujourd'hui. Fait que je vous explique comment ça fonctionne. Oui. On peut mettre jusqu'à 2 500 $ par année, par enfant, jusqu'à un total de 36 000 qui est subventionnable. On peut mettre jusqu'à 50 000, mais il y a 36 000 qui donnent des subventions. Ça fait que, règle générale, j'en arrête là. Puis c'est des subventions, les deux paliers ensemble pour les Québécois de 30 % les deux ensemble. Fait que tu sais, si je vous dis, je vous propose un placement, là, que c'est sûr que ça vous donne 30 % tout de suite en partant, c'est quand même intéressant.
Ça fout de pas embarquer. Est-ce que quelqu'un, je sais pas moi, là, mettons les parents à Max, là il est rendu, toi, 23?
24.
Bon, es-tu trop tard, mettons? Je peux-tu investir dans Max?
Il est trop tard, parfait.
Si mon enfant...
Puis même à 16 et 17 ans, il faut que tu aies mis 2 000 $ dans le passé, tu sais, pour pouvoir cotiser à 16 et 17 ans. Quand j'ai 16 et 17 ans, c'est l'année du 16e anniversaire et du 17e anniversaire.
Mais je peux-tu reprendre le retard? Comme moi, je suis embarqué là-dedans à la naissance de mes gars.
Excellente question. On a droit de rattraper 2 500 $ par année de ce qu'on n'a pas fait dans le passé. Ça fait que les gens que je sensibilise à ça, ben je leur fais mettre 5 000 $ par année. Ça fait que si votre enfant, si vous voulez maximiser, il faut que vous fassiez un minimum à l'année du 10e anniversaire, sinon vous ne pouvez pas vous rendre à 36 000.
OK.
Fait que l'idée, c'est de se rendre à 36 000. Parce que, mettons que t'es mon client, t'es en avant de moi, puis on discute d'indépendance financière, de retraite, ta famille, tes enfants. Bien, je vais te dire, regarde, si tu veux aider, là, on va dévier de l'argent vers là, on va maximiser tes REA, puis je vais te leur donner le 36 000. On fera ce qu'il y a de mieux avec le 36 000 quand je vais te leur donner, quand l'enfant va commencer le cégep ou ça. Fait que là, bien, si on a négligé ou pris du retard un peu dans les REA versus si on n'avait pas fait ça, on peut envisager de faire une plus grosse cotisation et placer dans le CELI. Donc, on récupère cet argent-là. Ça fait que l'argent, le capital fructifie à l'abri de l'impôt. Il n'y a pas d'impôt sur les rendements. Et quand on va retirer les sommes là, avec des preuves de programme d'études, j'ai pas besoin de facture. Là. Des fois, les parents me demandent hey, « j'ai acheté un ordinateur, vas-tu t'envoies la facture? » Pas besoin de facture, vous faites ce que vous voulez avec. Là. Donc là, le capital, je te le redonne à toi. Ça fait que règle générale, je le retire d'un coup puis je place, tu sais, j'ai d'autres stratégies avec ce capital-là. Puis les paiements d'aide aux études, donc les rendements qui ont été faits à l'abri de l'impôt et les subventions, eux, on va les retirer à l'enfant et sont imposables au nom de l'enfant. Mais règle générale, là, j'arrondis, en bas de 18 000 de revenus, tu ne payes pas d'impôt. Ça fait que si l'enfant il a une bonne job, il a travaillé plus, bien, on en retire un peu moins pour tenter d'éviter l'impôt là-dessus. Donc vraiment très intéressant. Encore une fois, très intéressant aussi. J'ai un grand-papa qui le fait pour 8 de ses petits-enfants, là, les régimes d'achat d'épargne et tout ça. J'ai ses enfants comme clients aussi, mais quand j'ai coordonné la chose, parce que la limite de 2500, là, c'est par enfant. Ça fait que si ton père il met déjà 1000$ pour tes enfants, bien, toi, tu peux juste mettre 1500 là, pour ta limite annuelle. Fait que maintenant que c'est expliqué, là, je vous donne des trucs puis plein de ou trucs ou erreurs là, qui sont faites. Là. Si c'est une erreur, bien, il y a un truc qui vient avec, là, évidemment. Donc,
c'est ce que j'essaie d'expliquer à ma blonde.
de penser que tout l'argent qu'on met dans le régime enregistré d'épargne études est pour les études. Uh-huh. La plupart du temps, je rencontre quelqu'un qui est déjà en régime d'épargne études, il dit ça, c'est pour les études. J'ai dit, c'est pas vrai. On devrait, si tu penses comme ça, on devrait maximiser et que tu récupères ton 36 000. Tu vas avoir plus d'argent gratuit qui va financer les études, puis toi, tu vas récupérer ton capital. Fait que ça, c'est la première chose. L'autre chose, je l'ai mentionné, de penser que ça s'applique juste aux parents. S'il y a quelqu'un, un jeune, tu sais, que mettons, Max, il y a quelqu'un qui te revient et qui dit « Écoute, tu m'as fait un affaire. »
Ce qui risque de lui arriver,
on va espérer que non, mais... mettons.
Non, mais faire sa part, donc quelqu'un qui te tient, ben là, tu peux cotiser au régime en recherche d'épargne études, peu importe la somme. Donc là, l'autre erreur, ça serait de ne pas maximiser. Si je vais un petit peu plus loin, souvent, je rencontre des clients, deux enfants, ils rentrent dans mon bureau, « Ah, je mets 100$ par mois par enfant. » On sait qu'il ne maximisera pas. Puis là, il met 100$ égal, les enfants ont 3 ans de différence. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais le sensibiliser. La plupart du temps, il va faire plus puis il va tenter de maximiser, là, rattraper le 5 000 par année. Mais là, je vais dire, si tu n'as pas plus d'argent, mets 200$ au plus vieux. Quand on va retirer le capital, on va le flipper dans celui du plus jeune. Donc, avec le même 5 000, je peux aller chercher plusieurs... Mon grand-papa, le même 5 000, je vais chercher 8 fois la subvention de 30 % avec le même 5 000 pour certaines personnes. Après ça, l'erreur suivante, je viens de la mentionner, c'est pas utiliser le même argent pour plusieurs régimes enregistrés par une étude. T'sais, si tu as deux enfants avec 2 ans d'écart, il y a 2 ou 3 fois 5 000 piastres qui va aller chercher 2 fois la subvention. Après ça, l'autre point, c'est de pas le faire avec... La plupart des gens pensent qu'à l'époque, c'était Universitas ou Calédo ou d'autres régimes collectifs. C'est très contraignant. C'est beaucoup plus contraignant. Tu n'as pas les options sur le placement adapté. L'idée, là, tu fais ça avec ton planificateur financier. Là, tu vas avoir les mêmes solutions de placement qu'il va te proposer, la même qualité de service.
Mais tu vas avoir plus de marge d'action.
Dans ton plan financier, exact, c'est ça. Puis plus de flexibilité si ton enfant ne poursuit pas les études, l'argent ne reste pas dans le pot. Il y a toutes sortes de différences ou de contraintes. Puis le dernier point, j'y avais fait allusion tout à l'heure, pour les parents que ça a été difficile dans le passé ou que ça l'est encore, là, sachez qu'avec le régime enregistré d'épargne études, il y a ce qu'on appelle le bon d'études canadien. Ça, c'est pour aider les familles à plus faible revenu. Donc, quand j'ouvre un régime enregistré d'épargne études, puis c'est déjà arrivé pour des clients aussi qui ont une bonne situation. Le système là, chez nous, va, avec le numéro d'assurance sociale, va interroger le passé familial, si on veut, de la famille de cet enfant-là.
OK.
Quand tu as des années à relativement faible revenu, là, j'arrondis, on est rendu aux alentours de 55 000. Okay? Donc, revenu familial, là, pas, mais ça peut être une personne, là, si la personne est la personne monoparentale.
Exactement.
Dès qu'il y a une année en bas du seuil de cette année-là, il y a un 500$ qui est déposé au compte de régime enregistré d'épargne-étude.
Wow.
Et pour chaque année que ça se répète, un 100$ de plus jusqu'à concurrence de 2000$. Fait que quelqu'un qui ouvre son... Tu sais, tantôt, on parlait d'ouvrir son propre régime enregistré d'épargne-étude. Ça peut arriver que ce soit l'enfant qui prenne ça en charge. Mais quelqu'un qui a peu de sous ou pas de sous, qui a eu un passé un petit peu plus difficile en tant que parent, souvent c'est des situations monoparentales, t'ouvre les régimes enregistrés d'épargne-étude pour avoir 2000$ qui apparaît dedans, pas longtemps après. Fait que retenez bien ça, parce que ça, il n'y a pas beaucoup, c'est les gens à qui ça s'applique, souvent, il n'y a pas souvent un conseiller financier en avant d'eux qui va l'expliquer et va dire « on va faire ça pour toi ». C'est un peu lourd aussi la paperasse pour faire ça. Ça fait que souvent, ça passe en dessous du radar. Ces gens-là, ils profitent pas de cette opportunité-là, si on veut.
Mais tu vois à quel point c'est avantageux de s'équiper de professionnels dans ta vie. Si toi, là, la documentation, ça t'intéresse pas, les finances, ça t'intéresse pas, tu dois quand même progresser, tu dois assurer la survie de tes enfants. Ces produits-là sont super intéressants. Puis si tu es capable d'aller chercher de l'argent du gouvernement, des subventions et tout ça, tu vas le faire, mais avec un gars qui connaît ça.
Ben oui, puis le reste va mieux aller parce qu'à la base, si tu es déjà pour le payer, tu es aussi bien de le payer avec des subventions que tu n'aurais pas eues. Si tu es pour ramasser les billes, soit partiellement ou au complet, faisons-le de façon intelligente, pensons-y à l'avance.
Puis des fois, il y a de l'argent qui dort, puis tu le sais même pas. T'sais, je parlais avec Stéphane Leblond il y a de ça quelques années, puis il me disait, tu sais, des fois, les gens viennent à mon bureau pour dire hey, « il faut que je fasse faillite, je dois de l'argent. » Parfait, c'est quoi? Avez-vous vos rapports d'impôts? Ça fait 7-8 ans que je n'ai pas fait de rapport d'impôts. OK, ben on va les faire. Finalement, les gens, au lieu de déclarer faillite, ils repartent avec un chèque.
Mm-hmm.
Parce qu'ils ont un gros montant d'argent auquel ils avaient droit, qu'ils n'ont jamais retiré.
Parce qu'ils sont juste dit j'en dois probablement pas.
Mais ces gens-là, c'est équipé de professionnels, un comptable, quelqu'un qui est capable de faire un rapport d'impôts, un planificateur financier, il aurait été capable d'aller chercher des sommes qui leur étaient dues. T'sais.
Exact. Puis, mais tu sais, il y a deux côtés. Ça prend des bons professionnels autour, puis ça prend un peu le pilote aussi. De prendre ses propres choses en main, de dire je vais le faire, je vais consulter les bonnes personnes, puis je vais m'occuper un petit peu de moi et pour me créer un meilleur futur.
Parce que le rapport d'impôts, c'est jamais une bonne nouvelle. Là, je sais pas vous autres, là, mais moi, période d'impôt, ça me gosse. Je fout mes culottes à terre en boxeur devant ma comptable. Voici tout ce que j'ai dépensé cette année. Voici ce qui me reste. Puis ça, c'est mes talons de paye et tout ça. Monter 4, patati patata. Ça me gosse à chaque fois. Mais une fois que c'est fait, là, je sors de là puis je suis tellement léger. Là. Parce que c'est je me dis, bon, ben,
t'as fait ce qu'il fallait.
Je sais ce que je dois, je sais ce qui va me revenir, mais là, mes papiers sont en règle, puis je repars pour une nouvelle année.
Exact. Ouais.
C'est jamais des bouts qui sont le fun. Mm. Hey, merci, Marc-Antoine, c'est super cool. Là, tu t'en vas dans